Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 18, l'onction des malades. Alors, nous abordons maintenant, nous terminons ce chapitre 2 au sujet des sacrements de la guérison. Nous avions vu les sacrements de l'initiation chrétienne, puis les sacrements de guérison, la confession, et puis l'urgence de retrouver la vie chrétienne et le sacrement des pénitences qui malheureusement semble avoir parfois complètement disparu de la pratique de certaines paroisses. Alors, il nous faut maintenant parler de l'autre sacrement de guérison, l'onction des malades. Et puis, nous aborderons ensuite, pour terminer, les sacrements au service de la communion et de la mission, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, et puis le sacrement du mariage. On prendra un peu de temps pour ces deux sacrements, évidemment, très importants. Et puis, il nous faudra conclure par le dernier chapitre, les autres célébrations liturgiques, donc les sacramentaux, les exorcismes, la piété populaire, et puis les funérailles chrétiennes. Nous en aurons terminé de cette deuxième partie sur les sacrements. Alors, concentrons-nous donc aujourd'hui sur ce qu'on appelle le sacrement de l'onction des malades, en remarquant en premier lieu que autrefois ce sacrement, traditionnellement, disons en français, était appelé l'extrême onction. Alors, dans les dernières décennies, le titre a changé, parce qu'on estimait que parler d'extrême onction, eh bien, ça faisait fuir les fidèles, et qu'ils avaient plutôt tendance à dire à éviter l'extrême onction, puisque c'était, sacrement de la mort. Bon, je comprends, d'une façon pastorale, qu'il faut bien présenter la nécessité de ce sacrement, surtout à un mourant. Mais il faut faire attention précisément à bien comprendre que c'est l'aide que Dieu nous donne au moment de passer la grande étape de notre mort. Comment est vécue la maladie dans l'Ancien Testament? Voilà, on va parler des malades et ce sera l'occasion cette fois-ci la semaine prochaine surtout de parler de la mort chrétienne, surtout en cette époque où on parle d'euthanasie, et c'est important d'avoir évidemment un regard chrétien sur cette question. Comment est vécue la maladie dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, l'homme a fait l'expérience, durant les périodes de maladie, de ses limites, percevant en même temps que la maladie est liée de façon mystérieuse au péché. Les prophètes ont entrevu qu'elle pouvait avoir aussi une valeur rédemptrice pour ses péchés personnels et pour ceux des autres. C'est ainsi que la maladie était vécue devant Dieu, auquel l'homme demandait sa guérison. Et vous voyez, je pense que c'est un élément qu'il faut vraiment retrouver. Une mentalité, une vision religieuse que nous enseigne effectivement l'Ancien Testament, à savoir que le mal souffert est une façon aussi le mal souffert et accepté devant Dieu est une façon de participer à l'œuvre de la rédemption, et donc une façon de racheter le mal que l'on a pu faire soi-même ou les péchés des autres. La souffrance n'est pas inutile. C'est ça qui est au fond de cette réflexion. Si l'on parle du principe que Dieu est bon, que Dieu veut notre bien, on l'a suffisamment démontré, en particulier dans la première partie de ce catéchisme. Mais à partir du moment où Dieu est bon, qu'il veut notre bien, s'il permet le mal et la souffrance, c'est nécessairement parce que il veut ainsi nous donner la possibilité de faire un plus grand bien, de recevoir un plus grand bien, et en particulier de racheter le mal que l'on a pu faire. Dieu, bien sûr, on le sait, par la rédemption, Dieu se fait homme pour racheter lui-même totalement le péché, mais il veut nous donner la possibilité de participer à cette œuvre de rédemption. Et donc, en ce sens, il faut voir, bien sûr, la maladie et les épreuves, et toutes sortes de souffrances d'ailleurs, comme autant d'occasions de vivre quelque chose en union avec le Christ et d'une certaine façon de sauver le monde. C'est tout à fait mystérieux, évidemment, et puis celui qui n'a pas la foi ne pourraient pas comprendre cette affirmation. Mais c'est tout le mystère de la souffrance vécue chrétiennement. Oui, il y a des grands saints qui ont passé toute leur vie dans un lit. Et c'est vous voyez l'anthropologie qui est derrière, c'est que finalement la valeur de la vie ne repose pas sur des critères humains. Oui, une personne handicapée qui ne peut pas sortir de chez elle parce qu'elle est malade, eh bien sa vie peut avoir beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que celui qui s'agite et qui fait plein de choses, plein d'activités, qui est en pleine forme. Pourquoi ? Parce que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Et ce que Dieu juge, c'est la qualité de l'union à lui, la générosité, le renoncement, le don de soi, l'amour finalement, la charité. Nous sommes jugés sur la charité. Et quand on est, même si on est malade, et qu'on a une grande charité, eh bien on peut faire beaucoup de bien pour soi-même, pour le salut de son âme, et aussi pour le monde. Donc voyons toutes les épreuves à chaque fois, disons mon Dieu, je vous offre cette souffrance. Voilà, une rage de dents, c'est insupportable. Une migraine, j'ai découvert en Italie, je sais pas pourquoi en Italie, c'est une question de pollen sûrement, mais j'avais des sinusites chaque année, chaque année au moment du printemps. C'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas prier, on ne peut pas lire, on ne peut pas réfléchir, on ne peut même pas dormir. Ça rend dingue. Dans ce genre de souffrance, il faut se soigner évidemment, hein. Mais les souffrances qu'on ne peut pas éviter, il faut avoir la grandeur d'âme de les offrir à Dieu comme autant de sacrifices, de présents, d'offrandes, autant de biens pour racheter le mal qu'on a fait dans le passé, ou le mal que les hommes font, et Dieu sait si il y a du mal qui se fait dans le monde. C'est la communion des saints, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais c'est la communion des saints, hein. Vous souvenez cette phrase de saint Paul redite par Bernanos, nous ne vivons, nous ne souffrons, nous ne mourrons pas les uns pour les autres, chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. Alors, avançons. Quel sens a la compassion de Jésus pour les malades ? Donc, dans l'Ancien Testament, il y a cette valeur de la souffrance, de la maladie qui est mise en évidence. Mais quel sens a la compassion de Jésus pour les malades ? Alors, la compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons qu'il opérait sont un signe évident qu'avec lui est arrivé le royaume de Dieu. Et donc, la victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la mort. Par sa passion et sa mort, il donne un sens nouveau à la souffrance, qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres. Voilà dit bien mieux que ce que j'avais expliqué, la même chose mais de façon plus synthétique. Voilà, par sa passion et par sa mort, le Christ donne un sens nouveau à la souffrance. Et donc cette souffrance, si elle est unie à la souffrance du Christ sur la croix, peut devenir un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres. Oui, encore une fois, si je souffre, soit une souffrance physique, psychologique, cette souffrance peut avoir une valeur si je la fais tourner en un bien, si je l'unis à la victoire du Christ sur la croix. Alors, par conséquent, quel est le comportement de l'Église envers les malades ? Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, l'Église s'emploie à le réaliser par les soins qu'elle leur apporte, ainsi que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d'un sacrement spécifique en leur faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par saint Jacques. C'est une citation de l'Épître de saint Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui dans l'Église exercent la fonction d'ancien. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. » Et donc dans ce passage, on trouve le fondement scripturaire du sacrement de l'onction des malades, clairement. Donc c'est une prière avec onction d'huile faite par les anciens, c'est-à-dire faite par les presbytéros, par les prêtres. Donc voilà ce qui est déjà fait dans l'Église des apôtres. Donc c'est évidemment une institution du Christ, contrairement à ce que certains protestants disent, puisqu'ils refusent que ce soit un sacrement. Mais c'est un sacrement spécifique qu'ensuite l'Église, comme pour les autres, a développé avec un rituel. Donc il y a tout le rituel. Alors c'est évidemment très, très important. On y reviendra dans la question suivante. Ce qu'on peut dire, évidemment, avant tout, c'est que symboliquement, l'huile, c'est ce qui adoucit, ce qui soigne, ce qui guérit, ce qui rend plus souple, ce qui, d'une certaine façon, donne la vie. Le gras, c'est la vie, comme disent certains. Et donc, symboliquement, cette huile est ce qui va venir purifier, nettoyer. Et guérir, évidemment. Et avec la prière de l'Église, et bien, dite par le prêtre, eh bien, c'est véritablement quelque chose, une grâce spéciale qui va être reçue dans l'âme. La grâce de savoir vivre la maladie, la grâce de la guérison aussi, et la grâce éventuellement de faire une bonne mort. Parce que l'Église ne nous promet pas qu'on va devenir immortel et que si on reçoit le sacrement, on ne va pas mourir. D'ailleurs, il y a une petite... pas une blague, mais un petit amusement entre prêtres, parce qu'on dit qu'il y a certains prêtres qui ont l'extrême onction qui guérit, et d'autres prêtres qui ont l'extrême onction qui tue. Donc, il y a des prêtres comme ça qui, à chaque fois qu'ils vont donner l'extrême onction, même à quelqu'un, tout le monde disait qu'il est en train de mourir, la personne après allait beaucoup mieux. Et puis d'autres, à chaque fois qu'ils ont donné l'extrême onction, la personne est décédée quelques minutes plus tard. Moi, je dois avouer que j'ai assez peu d'expérience d'extrême onction, parce que j'ai jamais été en paroisse, j'ai jamais eu de ministère en paroisse. J'ai une expérience auprès des mourants, parce que quand j'étais au séminaire, j'ai fait un stage dans une maison de retraite pendant plusieurs mois. C'était très intéressant, simplement d'aller prier auprès de personnes qui étaient soit malades, soit très âgées, soit en train de mourir, et puis d'assister les mourants. Au moment de leur mort, mais c'est un très beau ministère. D'ailleurs, au début c'est un peu difficile, hein, c'est clair, c'est pas quelque chose de facile. Mais l'extrême onction, comme prêtre, j'avoue que je l'ai donné peut-être moins d'une dizaine de fois en 17 ans de sacerdoce. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup. Il y a des prêtres qui font ça toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, s'ils sont dans une ville, dans une paroisse. Alors qui peut recevoir le sacrement de l'onction des malades? Question suivante. Tout fidèle peut le recevoir lorsqu'il commence à se trouver en danger de mort, en raison de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de nouveau plusieurs fois, si l'on constate une aggravation de la maladie, ou dans le cas d'une autre maladie grave. La célébration du sacrement doit être précédée, si possible, de la confession individuelle du malade. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui se fait... habituellement, le prêtre et sa spécialité, c'est-à-dire que alors voilà, si vous avez dans votre famille des gens qui sont proches de la mort, dont l'état de santé s'est dégradé, ou qui sont atteints, qui ont découvert qu'ils étaient atteints d'une maladie grave, eh bien, il est très important qu'ils reçoivent la visite d'un prêtre qui va les confesser, leur donner le sacrement de la confession, et puis ensuite le sacrement de cette onction des malades. Alors, j'insiste là-dessus, je fais un petit couplet sur pour l'autre jour, quelqu'un me dit oui, ma grand-mère est en train de mourir. Je dis il faut que vous proposiez de la visite d'un prêtre. Ah oui, mais mes parents et les oncles et tantes ne veulent pas qu'on envoie un prêtre parce que ça risque de la faire mourir parce qu'elle va avoir peur si elle voit un prêtre. Mais c'est complètement absurde. Ça c'est vrai, c'est même criminel, c'est horrible. Enfin, quand on y pense, la personne est en train de mourir, elle a besoin des secours de l'Église, des secours de Dieu, des secours de la grâce, et priver une personne âgée des secours de la grâce, c'est lamentable et c'est gravissime, c'est gravissime. Et donc, si vous avez dans votre famille, je le répète, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est proche de la mort, eh bien, que la personne soit consciente ou inconsciente, eh bien, il faut lui envoyer un prêtre. Que la personne puisse se confesser, et donc il faut envoyer le prêtre avant que la personne soit inconsciente. Et puis, comme je vous disais, parfois l'onction des malades rend la personne beaucoup bien, en bien meilleure santé. Alors ensuite il y a la question de la maladie. Quand quelqu'un tombe malade d'une maladie grave, eh bien il est tout, même si la personne est en pleine forme, eh bien il faut lui donner cette onction des malades pour que la personne puisse vivre cette maladie avec courage, avec force, et éventuellement guérir, évidemment. Donc, c'est pas parce qu'on, au contraire, si on reçoit l'onction des malades, ça peut être pour guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'onction des malades et qui ont guéri. Donc, par exemple, si on vous découvre un cancer ou quelqu'un de l'un de vos proches, on trouve un cancer, eh bien, il faut lui donner l'onction des malades. On peut même donner l'onction des malades avant une grave opération chirurgicale, quand la personne va être sous anesthésie générale et que c'est quelque chose de grave, oui, on peut recevoir la personne, on estime que c'est une maladie grave, donc évidemment, elle peut recevoir l'onction des malades. Et on peut redonner l'onction des malades si la maladie s'est empirée, et si elle est rentrée dans une nouvelle phase. Alors par exemple, moi, j'ai donné l'extrême onction deux fois à mon père, c'était très beau. La première fois, quand on lui avait trouvé un cancer, c'était il y a 11 ans, plus de 11 ans, on lui avait découvert un cancer des poumons, et donc j'étais allé lui donner l'extrême onction. C'était très beau, il n'y avait que ma mère qui était présente, et c'était très beau, parce que donc, moi je suis pas médecin, donc je pouvais vraiment rien faire, j'ai très peu de conseils à donner. En revanche, ça, je pouvais apporter les secours de la grâce à mon propre père pour cette maladie, et je pense que c'est le mieux que j'ai pu lui donner, c'était ça. Avec peut-être la Sainte Eucharistie, évidemment. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, ça n'a pas duré très longtemps, peut-être 3 mois plus tard, alors qu'on pensait que ça allait mieux, en fait, il y a eu une rechute, et puis, brutalement, le cancer s'est généralisé. Et donc, je lui ai donné à nouveau l'extrême onction, et là, c'était très beau, parce qu'il y avait tous mes frères et sœurs, et ma mère, comme nous sommes 9, ça faisait pas mal. Nous sommes 9 enfants, donc ça faisait pas mal de monde. Et étonnamment, mon père, quand il avait le jour où il a reçu l'extrême onction, donc la veille de sa mort, parce qu'il est mort le lendemain, était très très lucide, très lucide. Il répondait aux prières en latin, etc. Et puis il était très heureux qu'on soit tous là autour. Et c'était un grand moment de paix, de calme, de bonheur, quoi, de pouvoir se dire voilà, il y a la fatalité de la maladie et de la mort, mais en chrétien, on le vit en confiant tout ça à Dieu, et notre tristesse, qui est tout à fait légitime, est consolée par les bienfaits de la grâce que Dieu peut donner à celui qui va mourir, mais aussi à ceux qui restent après seul. Donc c'était une très belle cérémonie. Alors donc voilà, j'insiste, appelez les prêtres dès que vous avez besoin de dès que vous, voilà, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, qui va à l'hôpital pour une cause grave, évidemment. Eh bien, aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a toujours des aumôniers. Alors, en général, ce sont des aumôniers laïcs, mais qui ont l'avantage de savoir quoi faire, savoir comment faire. En général, quand on est surtout à l'hôpital, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Voilà, la mort, on y est rarement confronté. Les aumôniers, donc c'est des aumôniers qui sont nommés par l'évêque d'un diocèse. Dans chaque hôpital, en général, il y a un aumônier, et ça peut être un laïc, un homme ou une femme, mais au moins qui a la responsabilité de parler aux malades, de faire une présence de l'Église, une présence chrétienne, et de donner, de consoler, de soutenir, et puis de faire venir le prêtre s'il y a besoin. Donc les aumôniers comme ça sont en contact avec des prêtres, et quand il y a besoin du sacrement, évidemment, ils font appel au prêtre. Donc voilà, ne privez pas vos parents, vos grands-parents, vos connaissances, vos proches, ne les privez pas de cette important sacrement qu'il est absolument urgent de retrouver là aussi. C'était le grand, si vous voulez, c'était autrefois dans les villages, on dit toujours on a besoin du prêtre, parce qu'au moment, à l'heure de la mort, qui va venir nous assister? Alors aujourd'hui, la mort est devenue quelque chose de... On aura l'occasion d'en parler dans la prochaine émission. J'aimerais parler plus longuement du rapport à la mort et de l'euthanasie et de cette volonté de mourir que certains expriment. Mais vous voyez, le regard sur la mort, malheureusement, a complètement changé dans notre société. Aujourd'hui, les gens meurent de façon anonymement. On cache la mort. Justement, quand j'étais en stage dans cette maison de retraite, où j'assistais les mourants, j'avais fait cette expérience très très intéressante de visiter c'était une maison de retraite catholique, évidemment, mais il y avait une maison de retraite laïque un peu plus loin, et là il y avait tout un système d'ascenseurs qui permettait de descendre les corps des résidents qui étaient décédés à la morgue sans que personne d'autre ne les voit. Et ça, c'est assez terrible parce que dans ces maisons de retraite, si quelqu'un meurt, en fait, on le dit à personne. On le cache aux autres en disant, ben, il faut surtout pas leur parler de la mort. Et c'est, en fait, c'est horrible. Et donc, vous avez des gens qui disent, mais madame machin, elle est où? Ah, elle est dans sa chambre. Ah, elle n'est plus là. Elle est partie. Ou on dit pas aux gens en attendant qu'ils oublient. Et en fait, c'est terrible. C'est terrible cet effacement de la mort. Puisque la mort, évidemment, c'est la chose la plus commune, la chose totalement commune entre tous les êtres humains. S'il y a bien une chose, entre tous les vivants d'ailleurs, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que nous allons mourir. Personne n'échappera à la mort, ça c'est bien certain. Alors, pour quelle raison cacher la mort et essayer de la nier, c'est d'une certaine façon de nier la mort. Mais alors que dans la maison de retraite catholique où j'étais, évidemment, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un était mourant, eh bien, on prévenait tout le monde, le prêtre en parlait à l'église, on priait pour la personne, et puis, même au moment de l'agonie, ceux qui voulaient pouvaient venir prier pour la personne, et puis ensuite le corps était exposé comme on faisait autrefois. Le corps était exposé dans une salle, une chapelle même, dans l'hôpital, et pendant quelques jours. Et puis les autres pensionnaires pouvaient venir prier auprès du corps du défunt. Une tradition malheureusement qui s'est perdue et qui était tout à fait fondamentale. Hein, vraiment, je vous conseille, si vous pouvez le faire, de le faire. C'est le entre la mort de quelqu'un et ses obsèques, d'avoir qu'il y ait un temps. De prière auprès du corps. Je cherche le terme, mais en tout cas, non seulement pouvoir porter ses hommages au mort, mais pouvoir prier pour lui. Je vous ai parlé de la mort de mon père, donc je continue. Nous, on avait pu. Alors aujourd'hui, je sais que c'est plus cher. Il faut payer plus cher pour pouvoir amener le corps chez soi, mais c'est tout à fait légal, tout à fait permis. Donc on avait vidé une chambre et puis on avait mis un drap noir sur la porte d'entrée et on avait mis des bougies et puis des objets religieux, etc. Et puis tout le monde se relayait un par un pour prier auprès du corps de notre père qui était là. Et même les enfants, c'était très intéressant parce que les enfants, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et alors on leur avait dit aux plus grands, évidemment, les plus petits ne comprenaient pas, mais les plus grands, on leur avait dit, enfin leurs parents leur avaient dit, si vous voulez voir grand-père, grand-papa, vous pouvez. Alors évidemment, il faut y aller avec les parents, parce que les enfants comprenaient bien que c'était quelque chose de très mystérieux. Mais c'est important d'habituer les enfants à la mort et de leur faire comprendre que la mort est quelque chose de naturel et que les gens meurent. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y avait des parmi, comme j'ai beaucoup de neveux et nièces. Bon, les plus âgés avaient le plus âgé avait 10 ans et la majorité avait plutôt entre 5 et 0. Mais je me souviens d'une de mes nièces qui voulait absolument y aller, qui voulait absolument voir grand-papa. Elle avait dû avoir 5-6 ans. Et donc elle l'avait bien connu, quoi. C'était et puis elle voulait absolument le voir. Et puis alors que d'autres disaient non, je veux pas y aller. Donc là, il faut respecter, hein, il faut pas forcer les enfants, évidemment. Mais si un enfant veut voir le cadavre de quelqu'un qu'il a connu, etc., je pense que c'est important de lui montrer parce que c'est parce qu'on voit la mort qu'on prend conscience de la valeur de la vie, tout simplement. Et qu'on apprend aussi que ce qui vaut, c'est la vie éternelle, la vie dans l'éternité, que c'est parce que le corps est mort que l'âme de la personne disparaît. Donc c'est une très belle source de catéchisme. Et alors je dis ça d'autant plus volontiers que moi-même, quand mon grand-père est décédé, c'était en 85, donc j'avais 6 ans, exactement, j'avais 6 ans, et je me souviens très bien que son corps avait été exposé dans le salon de mes grands-parents à Saint-Brieuc. Et donc nous, on était allés voir toute la famille, on y était allés, et je me souviens que c'était très beau. Il lui avait mis un très beau costume, il lui avait mis, c'était dans un lit avec des très beaux draps brodés, etc. Et je me souviens, dans le salon, ouais, et je me souviens que surtout du chapelet qu'il avait entre les mains. Il avait mis les mains jointes et avec un chapelet. On avait fait la même chose pour mon père, évidemment. Mais j'ai ce souvenir, moi, quand j'avais 6 ans, on était allé voir, et ça m'avait pas du tout choqué, au contraire, mes parents nous avaient expliqué. Et je pense, au contraire, que c'est important de toute façon, les enfants seront un jour ou l'autre confrontés à la mort. Oui, d'ailleurs, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que On laisse les enfants voir des choses tout à fait horribles dans des jeux vidéo où les gens se font massacrer ou dans des films où il y a des morts sans cesse. Et puis, en revanche, on ne leur parle pas de la mort. Parce qu'il faut éviter. Donc ça fait, je pense, clairement un déséquilibre chez les enfants, une question qui fait que, enfin, une approche de la mort qui est assez dramatique, puisque ils sont confrontés à la violence sans comprendre le sens. Ils ont accès à la mort sans en comprendre le sens. Donc vraiment, je recommande que évidemment, il ne faut pas forcer les choses. Il ne s'agit pas d'aller de forcer les enfants à avoir des cadavres, mais par exemple d'aller visiter des cimetières. Le fait d'aller visiter des cimetières, le fait de parler des morts, de prier pour les morts, eh bien, c'est quelque chose d'important pour les. Ouais, on faisait ça en famille aussi. À chaque fois le 2 novembre, on allait visiter le cimetière comme ça, mais on allait prier sur les tombes qui avaient l'air le plus abandonnées, ou les tombes des petits enfants. Voilà donc. Pour aujourd'hui, nous reviendrons la fois prochaine sur comment vivre la mort chrétiennement et surtout sur la question de l'euthanasie, qui évidemment est une question urgente actuellement. Alors comme toujours, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous. Et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.